Chapitre 2. L'âme s'examine sur les causes qui l'empêchent d'être bien recueillie. Quand on vous signale les empêchements de la vertu, ce n'est pas, cher lecteur, pour vous fatiguer, mais pour vous aider à combattre le bon combat en vous poussant à faire disparaître toutes ces causes de retard dans le bien. Si donc je vous mets sous les yeux ce qui peut faire obstacle à votre recueillement, c'est pour que, dès maintenant, vous travailliez à vous en délivrer par tous les moyens dont vous pouvez disposer. Voyons pourquoi, en général, nous sommes si peu recueillis. Le premier et le plus naturel des obstacles que nous rencontrons pour le recueillement, c'est l'inconstance de notre esprit. Emporté par une imagination vagabonde, il cherche toujours autre chose que ce qu'il voit. Semblable au papillon, il ne se pose que pour s'envoler de nouveau. Cette inconstance doit être réprimée. Elle nous cause un grand tort, surtout dans les choses de la vie intérieure. Il faut donc s'en défier et la brider en la fixant. Par exemple, on lira tel livre et pas d'autre pendant tant de temps, ni plus ni moins, malgré tous les désirs de changement qu'on pourrait éprouver. Comment pourrait-on parvenir à s'occuper toujours, plus ou moins directement, mais toujours réellement, quand même, de Jésus-Christ et de son amoureuse imitation, si on n'a pas encore su brider et fixer l'inconstance ou l'impatience de son esprit? Le deuxième obstacle au recueillement, c'est l'idée, aussi enracinée que fausse, où nous sommes de trouver la joie dans le commerce des hommes. On regarde instinctivement par le monde parce qu'instinctivement, on croit que le bonheur est dans le monde. On voit les hommes s'agiter, parler, rire, s'amuser, et l'on dit « voilà la vie ». Alors on cherche à se mêler au monde, à partager les affaires du monde, à s'y faire un nom, des amis, des relations, une position, en un mot, à y jeter 1000 racines funestes. Et tout cela nous détourne de nous-mêmes, de la vraie vie et du bon Dieu. Laissons le monde, avec sa politique et ses affaires d'un jour, nous verrons s'aplanir pour nous la voie du recueillement. Vous répondez peut-être, cher lecteur, que tout cela est bon pour les solitaires, mais que vous, prêtres dans le monde, obligés de suivre le mouvement social et de courir après les brebis égarées, vous ne voyez pas à quoi le recueillement peut vous servir. « Oh, mon cher frère, si Jésus-Christ vous disait « Prêtre, donne-moi la main, nous marcherons ensemble », croiriez-vous inutile d'accepter cette proposition ? Or, le recueillement vous fera marcher, la main dans la main, avec Jésus, et seule cette vertu vous procurera cet inestimable avantage. » Un troisième obstacle, c'est, hélas, chose bien triste à dire, mais enfin trop réelle, c'est l'ennui d'être avec Dieu, le dégoût de Dieu, la folie de l'âme. Qu'est-ce qui peut détourner un jeune homme du foyer, l'inconstance naturelle et les illusions sur le monde d'abord, puis une certaine ingratitude, enfin une sorte de lassitude des parents? Les parents sont sérieux, ils font travailler, empêchent de trop jouir de la vie, réprimandent souvent, n'encouragent pas toujours. Tout cela fatigue, on étouffe, on veut de l'air, du large, la liberté. Et l'on s'en va comme le prodigue, bien loin dans la dissipation. C'est l'histoire du cœur jeune encore dans la vie spirituelle. Le sérieux de la religion, la vie pénitente, les privations de la nature et tous ces remords qu'éprouve une âme recueillie à la pensée des moindres péchés qu'elle se permet, tous ces efforts que Dieu demande et redemande à une âme intérieure et souvent sans aucune consolation sensible, tout cela fatigue, rebute et fait fuir, bien loin au pays des entreprises, des affaires distrayantes. Pauvre âme, à la mort, tu comprendras pourquoi l'on appelle folie ce dégoût des choses de Dieu. Un quatrième obstacle au recueillement, c'est la précipitation dans l'accomplissement du devoir. On veut être mûr à 30 ans, tout savoir à 25, mener le monde avant d'avoir vécu. Il faut mettre du cœur à l'ouvrage, mais il faut aussi de la discrétion. Autrement, l'amour-propre aura plus de part en nos œuvres que l'amour même de Dieu, car Dieu fait tout en son temps avec poids, mesure et douceur, au lieu que l'action de la nature est fiévreuse, emportée, sans retenue et instinctivement égoïste. Un cinquième obstacle au recueillement, c'est le démon, qui, furieux de voir une âme occupée de Dieu seule, veut à tout prix entraver son avancement. Dès lors, il pousse à la contention d'esprit, qui est le recueillement déréglé, et la santé s'en va, et l'âme se décourage. Bientôt, il faut tout laisser là. Ou bien il suscite à l'âme recueillie tant de troubles, de combats intérieurs, de tentations pénibles, d'idées noires, de scrupules, que cette âme finit par se laisser décourager de la vie intérieure. C'est que le démon comprend à merveille le prix de l'union avec Dieu et le bien qui nous en reviendrait. Examinez donc si vous n'êtes pas arrêté par l'un ou l'autre de ces obstacles. Inconstance d'esprit, amour du monde, paresse ou dégoût spirituel, entreprise de caprice, passion dans le devoir, démon de l'ennui, de l'exagération ou du découragement. Et quand même vous auriez tous ces obstacles à la fois, réjouissez-vous si vous voulez vraiment les surmonter, car Dieu aidant, nous arriverons bientôt à bout d'en triompher. Priez seulement beaucoup pour vous décider à la vertu. Affection et prière. Le cerf altéré soupire après l'eau vive des fontaines, Seigneur, mais votre serviteur éprouve de la crainte à se recueillir en vous. N'êtes-vous plus, ô Dieu, la source vive des consolations célestes, et mon cœur n'est-il pas accablé de chagrin, brûlé par l'ardeur de ses désirs indiscrets? Ah, la dissipation où je vis m'a privé du désir efficace de m'unir tout à vous. Voilà pourquoi, bien que vous soyez la fontaine de la paix, eh bien, que je languisse faute de cette eau salutaire, je ne puis pas dire comme le prophète et avec la même vérité, de même que le cerf désire les fontaines d'eau, ainsi mon âme soupire après vous, ô mon Dieu. Qui donnera des larmes à mes yeux pour pleurer un tel malheur? Ô saint Anachorète, ange des solitudes, vous qui poursuiviez votre Dieu comme l'avare une fortune, obtenez-moi votre sagesse. À la mort, sur le seuil de mon éternité, je comprendrai que seuls vous avez été les savants, les prudents et les riches du monde, parce que seul, méprisant toute bagatelle et toute vanité, vous avez su chercher, acquérir et posséder Dieu. Résolution. Demandez à Dieu la grâce d'avancer dans la vertu de recueillement. Le recueillement. Chapitre 1er. L'âme étudie les opérations fondamentales du recueillement spirituel. Une ou deux comparaisons, chers lecteurs, vous prépareront à saisir les opérations fondamentales ou, si vous le voulez, la nature du recueillement spirituel. Supposez un bataillon de soldats au repos. Les officiers jouent et rient. Deux ou trois hommes boivent. D'autres fument La plupart dorment. Tout à coup, le commandant se lève, ses officiers suivent son exemple et le cri « Garde à vous » retentit. Vous voyez d'ici tous les soldats du bataillon s'arracher au jeu, à la table ou au sommeil, courir aux armes et, au premier commandement, se grouper en silence, l'œil fixé sur leur chef, l'oreille attentive à sa voix, le cœur prêt à exécuter ses ordres. Or, supposez que ce bataillon soit l'ensemble de vos facultés et que ce commandant soit votre volonté. Si, au premier signal de cette dernière, toutes vos puissances se rangent et écoutent, prêtes à s'appliquer au devoir, vous possédez d'excellents éléments pour la vertu du recueillement. Cette vertu, en effet, apparaît de prime abord comme une sorte de facilité à réunir toutes ses facultés en Dieu et à les appliquer ainsi au devoir. Il en serait autrement si vous éprouviez de la peine à ramener votre imagination, à éloigner les soucis futiles, à oublier la terre pour vous occuper du ciel, car cela prouverait que vous êtes plus ou moins absorbé par les choses du monde, ou distrait, ou même dissipé. Faisons une autre supposition. Un auteur dramatique veut composer une pièce. Il se dégage de toute entrave, il rassemble toutes ses facultés, il les applique à son sujet. Voilà trois opérations à considérer pour bien profiter de nos exercices pendant ce mois. Par la première, cet auteur fouille la dissipation, les occupations étrangères à son but, les visites du monde et toute cause d'intempestive distraction. La deuxième le remet en la pleine possession de tout lui-même, esprit, mémoire, imagination, volonté, tout est dans sa main, prêt à agir. Vient alors la troisième qui dirige à propos chaque puissance et l'applique à l'objet de son ressort. Telle est la triple opération par laquelle une âme se recueille. Dégagement, attention, application. Dégagement de la créature, attention à soi, application à Dieu. Que ces opérations soient familières, faciles, habituelles, est presque instinctive à un homme, en sorte que rarement il s'en écarte. Nous aurons un homme recueilli. La vertu de recueillement n'est pas, comme la charité, une fin à attendre, elle est un moyen à employer. Or, il faut savoir entendre l'emploi de ce moyen, c'est-à-dire la pratique de cette vertu. Et d'abord, l'âme spirituelle doit bien comprendre jusqu'où il plaît à Dieu qu'elle pratique le dégagement de toute créature. Un ministre d'État qui veut conquérir l'estime publique et gagner les suffrages du peuple ne quitte pas ses affaires, n'interrompt pas sa correspondance et ne s'enfonce pas dans la solitude. Ce n'est pas ce que le peuple lui demande. Il fait donc ce qu'il a à faire, mais sans oublier son but principal qui est de plaire au peuple. Si, pour plaire à Dieu, vous négligez vos devoirs sous prétexte qu'il vous empêche de faire oraison, votre erreur est manifeste. Il en est de même de l'attention à soi et de l'application à Dieu. Ces opérations ne doivent point contrarier l'accomplissement de vos devoirs, mais le faciliter, le surnaturaliser, le sanctifier, le rendre plus méritoire et grandement agréable au divin Sauveur. Ainsi, vous voyez que ces opérations ont besoin de mesure et de sagesse. C'est donc le cas de répéter avec saint Paul qu'il faut être sage avec sobriété en Romains 12, verset 3. Si, pour se recueillir plus parfaitement, un pasteur d'âme s'enferme dans son presbytère et ne voit plus les malades de sa paroisse ou ses confrères, si dans le même but un religieux passe tout son temps à s'examiner, à compter les pulsations de son cœur, si enfin pour s'unir tout à Dieu un confesseur n'écoute son pénitent que d'une oreille, et si un prédicateur prétend ne devoir plus étudier ni composer mais seulement prier, il y a évidemment excès, désordre et manque de bon sens. Telle est donc la mesure à garder en ces trois opérations fondamentales du recueillement. Impossible de la préciser pour chacun. Nous ne pouvons nous guider en cela que par des principes généraux du genre que voici. Premièrement, le recueillement continuel absolu n'étant pas possible en ce monde, il faut viser au recueillement continuel relatif. Deuxièmement, le recueillement qui gêne l'âme dans le parfait accomplissement d'un devoir est excessif, aussi bien que celui qui fatiguerait la tête, engendrerait la mélancolie et porterait au noir. Troisièmement, le recueillement exercé dans l'oraison n'est pas suffisant à la vie parfaite, s'il ne se réveille pas un peu fréquemment le long du jour. Quatrièmement, le recueillement qui ne considère que Dieu, sans porter l'âme à surveiller ses propres mouvements, est incomplet. Cinquièmement, l'âme fidèle à faire souvent des oraisons jaculatoires peut se croire habituellement recueillie. D'une manière plus générale, mais tout aussi vrai, la vertu de recueillement consiste à régler sa vie et ses occupations de telle sorte que le souci de notre avancement spirituel l'emporte sur tous nos autres soucis. Le religieux, absorbé par l'enseignement et qui ne poursuit plus sérieusement la perfection chrétienne, le prédicateur, que l'entrain de l'apostolat rend presque incapable de véritable oraison, tout homme enfin qui, dans les préoccupations immédiates de la vie, fait passer le temps avant l'éternité, a besoin de renforcer son recueillement. Le point d'illusion à propos de ce qu'on appelle recueillement continuel me semble se trouver entre ne pas savoir faire avec application tranquille ce qu'on fait et ne pas savoir éviter de le faire si fiévreusement que l'on se rende impossible un fréquent regard sur Dieu. Puisque le recueillement, comme toute autre vertu chrétienne, a pour but de nous aider à servir Dieu selon les exemples de notre Seigneur, il faut qu'il soit assez continuel pour que nous ne perdions pas de vue notre modèle et assez libre pour que nous voyions notre propre copie. Mais hélas, le mal n'est point tant là que dans la négligence où nous vivons presque tous par rapport à la vertu. Non, nous ne voulons pas assez vigoureusement notre avancement spirituel. Essayons du moins pendant ce mois d'augmenter notre habitude du recueillement. Qui sait où nous serons l'année prochaine à pareille époque? Affection et prière. J'entrevois votre face, ô mon Dieu, comme un soleil pâle à travers un brouillard qui se dissipe. Ô Jésus, roi d'amour, où vous ai-je laissé? Depuis quand vous ai-je perdu de vue? Mon âme croit avoir rêvé. J'ignore pourquoi j'ai vécu si dissipé. Quelle vie distraite, absorbée par la créature, quel bruit assourdissant dans mon cœur. Ô mes pensées, ô mes désirs, revenez, retournons à notre centre, rentrons en la présence de Dieu. Je vous en prie, Seigneur tout aimable, adoré Sauveur, daignez me pardonner mes fautes si nombreuses. Voilà que je cherche à vous voir pour imprimer votre trait sacré dans mon cœur et pour mieux vous aimer. Considérez les mérites de votre douloureuse passion et rendez-moi le saint recueillement. Et vous, affaires du monde, éloignez-vous pour une heure du moins. Pensées terrestres, cessez d'obscurcir le regard de ma foi, tombez comme des écailles de mes yeux. Je veux me rapprocher de mon Dieu, regarder la patrie où j'aspire. Ah, Vierge Sainte, je suis si fatigué de ne plus m'entretenir avec vous dans l'oraison. Je ne sais même plus bien où en est la vie surnaturelle de mon cœur. Ayez pitié de ce pécheur dissipé qui pleure à vos pieds, ainsi soit-il. Résolution : demander pardon à notre Seigneur de m'être éloigné de lui par la dissipation. Chapitre 3 : l'âme se résout à quitter tout ce qui la détourne de la vie recueillie. La dissipation est l'état d'un cœur et d'un esprit qui court après ce qui tente les sens, qui cherche à s'amuser, dont la seule occupation n'est pas tant le devoir que le plaisir. Il est bon de se rendre bien compte de ce défaut parce que, si nous le comprenons bien, nous achèverons de saisir l'essence ou la nature du recueillement. Nous connaissons d'ailleurs la nécessité où nous sommes d'éviter tout défaut si nous voulons ressembler à Jésus-Christ. Nous dirons donc un mot de la dissipation. Nous ne parlons pas ici de l'esprit distrait qui ne sait pas faire oraison un quart d'heure sans être emporté aux quatre coins du monde. Nous parlons d'une âme dissipée dans tout l'ensemble de sa vie, c'est-à-dire d'une âme occupée avant tout de ses affaires temporelles, de ses amusements, de ses plaisirs, d'une âme qui ne pense plus sincèrement aux intérêts de son éternité, d'une âme qui n'a plus l'esprit de prière et d'oraison, d'une âme enfin qui vit loin de Dieu par l'esprit et par les affections. Cette première distinction entre la dissipation et les distractions est à retenir. On est dissipé surtout par deux attachements déréglés, l'attachement au monde et l'attachement aux travaux qui nous plaisent. Bien que la dissipation créée par une activité excessive soit moins dangereuse que celle qui vient du monde, elle ne laisse pas d'être encore très funeste. Il faut les redouter extrêmement toutes deux comme deux plaies de la vie spirituelle, ou plutôt comme deux sentiers qui égarent. Nous l'oublions trop. Le salut de notre âme n'est pas encore assuré et l'enfer pourrait bien, hélas, nous engloutir à jamais. Craignons donc la dissipation. Insensiblement, elle mène à l'abîme. Remarque propre à terrifier, tous ceux qui perdent leur vocation se sont distingués par leur dissipation. Ou bien ils vivaient du monde, ou bien ils se passionnaient pour des œuvres à eux. Si vous y prenez garde, vous constaterez ce lamentable fait. La mondanité et l'insubordination, la vie naturelle et l'irrégularité, les chutes enfin viennent de la dissipation. Les parents ressaisissent le cœur, les mondains le flattent, les scandales l'énervent, et parmi tous ces écueils, l'âme dissipée ressemble, hélas, à un navire qui chasse sur ses ancres. Rien ne la retient plus en Dieu, elle va au gré des vents. Un violent orage la fera sombrer. Voilà pourquoi la dissipation est mortelle pour les âmes. Elle les jette sans défense au milieu de leurs plus dangereux ennemis. Toutes les fois que j'ai été parmi les hommes, lit-on dans l'Imitation, j'en suis revenu moins homme. Cette maxime qui doit s'entendre du monde s'applique bien ici. « car l'homme dissipé est presque toujours avec le monde, et quel monde ! Un monde ennemi de Jésus-Christ, licencieux, hypocrite et méchant. Il y est ou de corps, ou de cœur, ou d'esprit, ou de souvenir. De corps, quand il lui rend des visites inutiles, de cœur, quand il y a des attaches, d'esprit, quand il s'occupe trop des affaires du monde, de la politique, des vanités de la terre, de souvenir, quand il repasse dans sa mémoire les lieux où il a été, les personnes qui l'ont flatté, les choses auxquelles il s'est intéressé. Comment donc ne serait-il pas amoindri par toutes ces misères qui le tentent ou l'importunent ? Par la dissipation, l'esprit du monde envahit l'âme et la transforme, ou plutôt la réduit en son propre esprit, c'est-à-dire attise en elle le feu de toutes les passions. En effet, tout ce qui est du monde n'est que concupiscence et désordre. L'eau creuse la pierre et l'esprit mondain ronge les racines de la vertu. Peu à peu, l'on ne sait plus porter le joug du Christ et le désir de vivre là où on a placé son cœur augmentant. On quitte Dieu et l'on se perd. Lamentable mais vieille histoire. De plus, par une activité déréglée comme par la dissipation proprement dite, l'âme qui néglige le recueillement tombe peu à peu dans la sécheresse. Elle devient paresseuse pour la piété, l'oraison, les exercices spirituels, les saintes rigueurs de la pénitence. Un jour, c'est tel travail qui fait omettre la visite au Saint-Sacrement. Un autre jour, c'est telle correspondance qui fait réciter à la hâte le bréviaire. Ou bien les distractions envahissent l'esprit dès qu'on veut l'appliquer aux choses de Dieu. La vie intérieure est rendue comme impossible. Et alors, comment vont les affaires de l'éternité, la vertu, la résistance aux tentations, l'imitation et l'amour de Jésus ? Comment va la grande affaire religieuse qui est de reprendre et de remplir au jour le jour sa tâche, l'entière et fervente observance de la règle ? Hélas, que tout cela est triste et qu'il est évident que la dissipation mène à la perdition. J'ignore si l'on peut se croire exempt de tiédeur quand on est dissipé volontairement. Mais j'ai bien peur que dissipation volontaire et tiédeur ne soient deux corrélatifs effrayants. Vous en jugerez vous-même, bon lecteur, par le passage suivant que j'extrais du célèbre Père Louis de Grenade, une des plus belles gloires du grand ordre de Saint-Dominique. Après avoir rapporté ce mot que saint Athanase attribue à saint Antoine, les âmes solidement pieuses reprennent les exercices de la vie spirituelle avec la même ardeur que le poisson se replonge dans l'eau d'où on l'a tiré. Le vénérable auteur s'exprime ainsi : les saints, que quelques impérieux devoirs de charité appellent dans le monde, reviennent aussitôt qu'ils le peuvent aux exercices de la vie intérieure. Ils craignent qu'un trop long contact avec le monde n'imprime à leur âme quelques souillures ou que, l'ardeur de la charité venant à s'affaiblir en eux, ils n'aient tout à faire ensuite pour revenir au point d'où ils sont partis. Combien en effet, à qui leur manque de précaution sous ce rapport a été fatal. C'était un pressant motif de charité ou l'ordre des supérieurs qui les avait d'abord engagés dans les occupations extérieures. Mais ces occupations les ont tellement absorbés qu'ils n'ont pas su s'en débarrasser et que, leur première ferveur étant perdue, ils sont demeurés toute leur vie dans un déplorable état de froideur. Ils avaient bien essayé de reprendre les exercices spirituels, mais découragés, ils les ont entièrement abandonnés. On peut dire en effet de la dévotion qu'elle est comme un souffle qui passe et ne revient plus, ou si elle revient après une longue interruption, ce n'est que difficilement. Ce passage remarquable est complété par le suivant que nous trouvons dans les écrits spirituels de Lanspeerge le Chartreux. C'est notre Seigneur qui parle à l'âme trop peu recueillie. Vous ne prenez point garde à mes visites, lui dit ce bon maître. Vous fermez votre cœur aux impressions de ma grâce. De là, il arrive qu'étant le plus souvent répandu au dehors, vous ne voyez pas ce qui se passe en vous-même, et vous demeurez insensible aux dommages spirituels que vous en éprouvez. Vous devriez corriger par l'exemple de votre vie ceux qui ne vivent pas saintement. L'odeur de vos vertus devrait être le remède des infirmes. Vos paroles, comme un feu dévorant, devraient enflammer les cœurs de ceux qui vous écoutent. Et cependant, vous êtes toujours languissante au milieu des vanités et des bagatelles, préoccupée d'une foule de choses inutiles. Vous n'êtes pas même entièrement dégagée des passions dangereuses, et votre cœur partagé se souille par l'impression de mille images étrangères. L'amour de vous-même est encore aussi vivace que jamais, et pourtant, si vous n'y renoncez absolument, vous ne pouvez prétendre à la qualité de mon épouse. Au lieu d'enseigner les autres comme vous en avez l'obligation, vous avez donc besoin d'être enseigné vous-même. Résolution. Tâchez de voir nettement d'où vient que je m'applique si difficilement aux exercices de la vie spirituelle.